7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, à 8h57, nous retrouverons Ludovine de la Rochère pour sa chronique, puis l'analyse de Jean Messia à 9h05. Mais tout de suite, je laisse le micro à Maïlys Clozel pour la chronique de Raphaël Aymin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et pour cette nouvelle chronique, chers auditeurs, nous recevons Raphaël Aymin, porte-parole de Ténésoun et du mouvement Justice pour les Notes. Bonjour Raphaël.
Bonjour Maïlys.
Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une fameuse mobilisation qui aura lieu donc à Nice pour ce 1er mai.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec une invitation un petit peu. Alors, je vais faire le porte-parole par délégation. Vous savez, d'ordinaire, moi, je suis plutôt porte-parole d'un mouvement qui est enraciné en Provence, Ténésoun. Mais aujourd'hui, je viens rendre service aux camarades niçois du mouvement Aquila Popularis qui remettent le couvert. Alors, figurez-vous, depuis un an, Aquila Popularis organise une manifestation le 1er mai en défense de Sainte-Jeanne d'Arc, notamment parce qu'à Nice, vous le saviez, une statue avait été construite de Jeanne d'Arc devant l'église Sainte-Jeanne d'Arc, justement, précisément. Et cette statue, l'année dernière, avait été menacée de déboulonnage. Alors, la statue est saine et sauve, puisque ce déboulonnage n'a pas eu lieu, notamment grâce à la mobilisation de différents acteurs politiques, associatifs, dont Aquila Popularis, qui avait déjà organisé une manifestation l'an dernier. Et aujourd'hui, Aquila Popularis a décidé de réorganiser une manifestation, justement ce 1er mai, à 18h, devant cette statue de Jeanne d'Arc, une manifestation qui a un peu une connotation différente cette fois-ci, puisque Aquila Popularis vient renouer avec une vieille tradition de la droite nationale française, qui est celui de rendre hommage à Jeanne d'Arc dans la rue et de faire de cette journée-là une journée de la fierté française. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est une vieille tradition? Parce que peut-être que les plus seniors d'entre nous s'en souviennent, mais ce que l'on appelle l'extrême droite défile pour Jeanne d'Arc au mois de mai à des dates qui peuvent un petit peu varier depuis près plus d'un siècle. Alors figurez-vous que ça remonte un petit peu au 19e siècle, le siècle justement où on va redécouvrir un petit peu cette figure de Jeanne d'Arc comme une figure de fierté nationale, de résistance, puisque c'est un sénateur de gauche radicale, un certain Joseph Fabre, qui va proposer en 1894 de faire de Jeanne d'Arc, d'utiliser Jeanne d'Arc pour faire une fête nationale du patriotisme. Cette fête nationale du patriotisme va justement être instaurée par vote le 10 juillet 1920 par le député et écrivain que l'on ne présente pas, Maurice Barrès. Depuis lors, différents mouvements de droite nationale comme l'Action française vont manifester pour Jeanne d'Arc chaque année dans les rues et c'est une tradition qui va être reprise dans le courant des années 90 par le Front national. Tradition aujourd'hui abandonnée justement par son héritier, le Rassemblement national. Donc Aquila Popularis vient un petit peu se reprendre cette tradition qui avait été laissée à l'abandon et proposer une manifestation d'occupation d'espace public, de fierté patriotique, à Nice, donc, à 18h devant l'église Sainte-Jeanne d'Arc le 1er mai.
Eh bien écoutez, merveilleux. Alors, vous le savez, hein, Jeanne d'Arc, ça représente tout un symbole pour le camp patriote. Et je sais que vous êtes un fervent patriote, donc j'imagine que pour vous, ça représente quelque chose. Aujourd'hui, du coup, dans l'espace public et dans l'espace politique, qu'est-ce que ça représente véritablement Jeanne d'Arc, selon vous?
C'est rigolo parce que quand on parle de Jeanne d'Arc, moi j'ai toujours cette image aujourd'hui pour la vision moderne de Jeanne d'Arc, de Jean-Luc Mélenchon qui passe à côté d'une statue de Jeanne d'Arc. C'est une archive qui date de peut-être une dizaine d'années. Il lève la tête, il regarde cette statue de Jeanne d'Arc et il dit à quelqu'un qui l'accompagnait, c'était filmé, « Ah mais vous savez, cette folle, elle entendait des voix. » Je trouve que le fait de se moquer de telle figure est assez éloquent sur les orientations politiques anti-françaises de Jean-Luc Mélenchon. Pour nous, Jeanne d'Arc, ça nous renvoie évidemment, un double héritage, déjà un héritage chrétien, catholique, qui est inséparable de ce qui constitue notre identité française, mais ça renvoie aussi surtout à un symbole dont on a... Qu'est-ce qu'on en a besoin de symboles comme ça à notre époque? Justement, des symboles de résistance, résistance patriotique. Donc la figure de Jeanne d'Arc, c'est pas pour rien que, comme je vous disais, au 19e siècle, c'est un sénateur de gauche qui va venir chercher justement cette figure de Jeanne d'Arc pour incarner le patriotisme, parce que c'est précisément à la fois une figure populaire qui vient... du peuple français et qui va avoir une épopée de résistance pour le peuple français. Alors, justement, les logiques un petit peu matérialistes, cyniques de la gauche vont peut-être la traiter de mythomane, de folle, de personne qui entendait des voix, voire même quand elle vous la mythifie pas totalement pour vous dire qu'elle n'existait pas réellement. Nous, justement, on comprend que derrière Jeanne d'Arc, il y a tout un mythe, il y a toute une chanson qui se joue à l'honneur de la France. Et évidemment, c'est une figure où, naturellement, on porte notre affection dessus.
Alors, vous l'avez dit précédemment, le Front National, donc du temps de Jean-Marie Le Pen notamment, défilait dans les rues justement pour rendre hommage à cette figure. On a remarqué qu'aujourd'hui, c'était plus ou moins dilué. Enfin, on sait qu'on a Marion Maréchal qui fait tous les ans un hommage à Don Rémy Lapucelle. Elle y sera encore cette année. Donc, pour les auditeurs qui sont dans les environs, évidemment, je vous invite à vous joindre au mouvement de Marion Maréchal pour célébrer cette figure. Mais de notre côté, donc le Rassemblement National aujourd'hui, l'héritier du FN, pour le coup, semble avoir plus ou moins abandonné un petit peu cette célébration. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, tout à fait. Donc, le Front National va commencer à honorer, à se joindre aux manifestations qui honorent Jeanne d'Arc à partir de 1988. Et ça m'évoque tout simplement, on va dire, un changement de stratégie interne au Front National qui s'est installé sur plusieurs décennies, alors qu'on peut lier évidemment au processus de ce qu'on appelle la dédiabolisation. Le Front National, il faut comprendre qu'à l'époque où c'est un parti qui n'est pas encore le premier parti de France, c'est un parti qui utilise les manifestations à cadence régulière comme modèle d'action politique. C'est quelque chose qui a totalement abandonné. Parce qu'on se rappelle que l'année dernière, quand le Rassemblement National a convoqué une manifestation, il a peiné à rassembler 5000 personnes pour venir en soutien à Marine Le Pen qui avait été condamnée à Paris. Oui. Or, si je vous cite les chiffres, vous allez avoir le vertige. En 1988, quand le Front National défile à Paris pour Jeanne d'Arc, il rassemble 60 000 sympathisants. En 1998, le Front National va rassembler à Marseille dont on rêvait de faire tomber la ville lors des dernières élections municipales, il va rassembler plus de 20 000 personnes sur la Canebière. Donc, c'est des chiffres qui sont absolument hallucinants. Sans compter toutes les mobilisations entre deux élections que le Front National était capable de faire à une époque. Il y a eu des manifestations, vous regardez, ça date d'il y a plus de 15, il y a moins de 15 ans, on va dire. Le Front National défilait encore parfois entre des ouvertures de mosquées, de centres de migrants, de CADA. Bref, il faisait de la politique à l'année. Il y avait une vraie, véritable culture militante. D'ailleurs, même pas que sur les thèmes identitaires, puisque le Front National, c'est méconnu, avait par exemple même manifesté contre la fermeture d'Alstom. Mmh. Donc, c'est assez intéressant et moi, ça m'évoque peut-être une stratégie du Front National qui se refuse à socialiser son électorat, c'est-à-dire à offrir autre chose à ses électeurs que juste une mobilisation dans les urnes à chaque échéance électorale.
Alors, vous l'avez comparé tout à l'heure, il y a une affluence aujourd'hui qui est malheureusement bien moindre pour ce genre de mobilisation par rapport à justement cette mobilisation du FN en 1988. Comment vous expliquez que les gens s'y rendent moins ?
Alors, ça a trait, justement, ce que j'ai dit, hein, c'est un terme important, moi, c'est l'une de mes marottes, celui de socialisation. Mm. C'est-à-dire qu'un électorat, il faut le sociabiliser à l'année, il faut lui proposer des activités, il faut que les adhérents ne soient pas juste des adhérents fantômes, mais des gens qui soient vivent dans une vie militante, c'est-à-dire avec des permanences, des fédérations locales qui leur proposent des activités à l'année. C'est ça qui permet, en réalité, de construire une mobilisation de rue. Alors, on nous sort souvent ce que je trouve être un petit peu une excuse parce qu'on va peut-être en parler, on a des comparatifs étrangers qui nous permettent justement de le nier, mais on nous sort souvent l'idée que la culture de la rue ne serait pas à droite, c'est-à-dire la culture de la mobilisation de rue, puisque la droite, ça serait le camp de l'ordre, le camp justement qui s'oppose aux manifestations, le camp qui n'aime pas le désordre précisément. Je crois que c'est assez faux, parce que quand on regarde l'histoire de la droite nationale française, elle a su mobiliser dans la rue, précisément. Et quand on regarde nos voisins, c'est peut-être l'un des méthodes d'action favorites qu'ils ont, quand on pense aux immenses manifestations de Toby Robinson, par exemple, au Royaume-Uni. Donc, je crois que, effectivement, le Front National, à se refuser de socialiser son électorat, perd justement sur ce terrain-là. En revanche, je crois aussi que ce n'est peut-être plus le rôle du Front National, du Rassemblement National au port du pouvoir d'organiser ce type de manifestation, mais c'est le rôle d'autres. Et ces autres, précisément, c'est des mouvements comme Tenesoun ou Aquila Popularis qui sont ce qu'on appelle la mouvance identitaire, la mouvance militante, celle justement, précisément, dont la différence avec le Rassemblement National est peut-être de faire de la politique entre deux échéances électorales.
Alors justement, vous avez abordé ces manifestations qui sont organisées en Angleterre par ce fameux Tommy Robinson hein, qui est tant connu et qui est célébré notamment par le camp patriote. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait voilà, avoir en France des mobilisations d'une telle ampleur. Moi, j'étais l'année dernière à Londres et je m'y rends d'ailleurs dans quelques semaines, justement, pour cette seconde mobilisation de l'année. Est-ce que vous pensez qu'un jour, pourquoi pas, on pourrait voir cela en France, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus britannique, si j'ose dire?
Alors, c'est intéressant, c'est une question intéressante. Moi, j'aime bien appeler ce type de mobilisation des mouvements sociaux identitaires. Ouais, il y a un mouvement social. Quand on parle de mouvement social de gauche, moi, je pense que c'est des mouvements sociaux identitaires parce que c'est des fois des contestations qui s'inscrivent sur le long terme. Alors, on a l'exemple anglais, évidemment, qui nous vient à l'esprit, mais je pourrais vous en citer d'autres. Il y a eu des manifestations de ce type-là en Espagne, avec le 9e Ré National, au moment de l'amnistie des prisonniers politiques catalans. Vous avez eu des mobilisations de ce type-là dans d'autres pays d'Europe, comme l'Irlande, avec le mouvement House the Irish. Donc, est-ce qu'on pourrait voir en France des manifestations de ce type-là? Je crois que la France, elle a un mal qui la ronge, qui est grand, qui est celui de l'atomie sociale. C'est-à-dire que l'on, France, on vit de façon moins communautaire que l'on ne vit en Angleterre, en Espagne ou en Irlande. Et précisément, ça joue au moment de se mobiliser dans la rue ou de se mobiliser en manifestation. Alors moi, je peux le souhaiter, mais pour le souhaiter, il faut, je crois, créer les conditions qui puissent faire germer des mouvements sociaux de ce type-là. Et justement, pour créer ces conditions-là, il ne faut pas abandonner à la première manifestation qui, comme on dit, un petit peu bide. En ce sens qu'il faut insister, insister, insister jusqu'à ce que des gens comprennent que c'est une méthode d'action légitime et qu'elle a son intérêt. Un triple intérêt, à la fois un intérêt social, faire rencontrer d'autres personnes qui partagent vos idées, un intérêt d'occupation de l'espace public aussi, marqué par nos drapeaux et nos slogans d'espace public. Et enfin, je crois que c'est le troisième intérêt, et c'est le plus important, c'est celui de venir imposer un rapport de force, parce que c'est à ça que sert la manifestation. Et précisément, à chaque manifestation réussie, vous avez peut-être des gens qui vont passer sur le côté, qui vont vous regarder et qui vont se dire, mais si eux assument, pourquoi pas moi?
Effectivement, il faut renouer avec la communauté. Il faut que les Français aiment un peu plus les leurs, si j'ose dire. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup Raphaël Emma pour votre chronique et pour le thème de cet entretien. Nul doute qu'on vous réinvitera pour en parler plus amplement, peut-être après cette mobilisation de Tommy Robinson, pour voir ce qu'il y a à en dire et surtout à en tirer d'un point de vue français. Donc merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Tennessoon et du mouvement Justice pour les Nôtres. À très bientôt Raphaël Emma.
Ligne droite.
Et nous recevons désormais pour sa chronique hebdomadaire Ludovine Delarochère, présidente du syndicat de la famille. Bonjour Ludovine.
Bonjour Alexandre.
Alors, où en est-on des débats parlementaires sur la fin de vie? Et je crois qu'il y a du nouveau.
Alors oui, effectivement, sur la fin de vie, j'ai des nouvelles diverses, alors des nouvelles inquiétantes, mais aussi des nouvelles encourageantes. Du côté des inquiétudes, c'est d'abord l'arrivée prochaine de la seconde lecture au Sénat. Elle signifie que l'avancée du processus parlementaire est entrée dans une zone d'alerte rouge. La proposition de loi est en effet passée déjà en première lecture à l'Assemblée nationale, puis en première lecture au Sénat. Elle est ensuite passée en seconde lecture à l'Assemblée nationale et elle aborde donc, maintenant je le disais, la seconde lecture au Sénat prévue à partir du 11 mai. Alors, en l'occurrence, à chaque lecture par une assemblée, il y a d'abord un examen en commission, en l'occurrence là, la commission des affaires sociales, puis l'examen en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle. Et hier, la commission des affaires sociales du Sénat a étudié, a examiné, c'est le terme, a examiné la proposition de loi, en partant donc de la version sortie de la seconde lecture à l'Assemblée nationale. J'espère que vous me suivez.
Oui, alors est-ce que cette commission des affaires sociales du Sénat a supprimé le droit de provoquer la mort?
Alors, la commission des affaires sociales du Sénat a modifié largement la proposition de loi, mais en restreignant simplement l'accès à ces pratiques. Donc à l'heure où je vous parle, le texte concerne les patients en fin de vie, avec un pronostic vital engagé à court terme, et non plus des personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé. Cette nouvelle version du texte correspond en fait à ce qu'on appelle une exception d'euthanasie. Alors en l'occurrence, une exception d'euthanasie ou de suicide assisté. Il n'empêche, même si la porte n'est plus grande ouverte, elle est ouverte. Ouverte à ces pratiques qui consistent à faire mourir. Alors, on pourrait le dire en sens inverse, parce qu'on finit par se faire avoir par le langage des progressistes. En vérité, la porte est fermée, fermée à la protection des plus vulnérables, fermée à l'accompagnement, quelles que soient les circonstances, fermée à la volonté de soulager les souffrances, même quand c'est plus difficile. Et puis on sait que même si l'accès était très restreint, dès lors que le suicide assisté et l'euthanasie deviendraient possibles, ces fameuses conditions d'accès seraient de toute façon très rapidement et très largement élargies. Mmh. Cette histoire d'accès restreint, d'exception, est donc véritablement une illusion. De toute façon, il n'y a pas d'exception qui tienne, ni sur le plan humain, ni sur le plan législatif, donc, ni sur le plan moral. Alors, pardon, je sais, dans notre monde contemporain, moral est un gros mot. Mmh. C'est bien pourtant ce qui distingue l'humain des autres vivants, sa conscience, et par conséquent sa capacité à distinguer le bien du mal. Et cela est nécessaire car choisir ce qui est bon est en fait un impératif. Et bien sûr, la question morale est au cœur de ce sujet de la fin de vie.
Alors, si je comprends bien, Ludovine de la Rochère, c'est donc fichu. De toute façon, l'euthanasie et le suicide assisté seront bientôt légalisés, que ce soit avec un accès restreint ou large.
Alors non, à ce jour, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas fichu et ce sont les signes encourageants que j'évoquais au tout début. Alors pourquoi ? Parce que le sénateur Francis Spinner a déposé une proposition de loi référendaire, c'est-à-dire une proposition de loi qui ouvre la possibilité d'un référendum. Il s'agirait de consulter les Français sur le fait de savoir si on peut envisager que le fait de donner la mort soit un acte de soin. Alors vous allez me dire, est-ce qu'un référendum c'est pertinent ? Est-ce qu'on a envie de demander l'avis des Français ? J'oserais dire, aujourd'hui, tout est bon pour enrayer le processus parlementaire. Tout est bon pour stopper ce qui est en cours. Et puis on le sait, la présidentielle s'approche.
Oui, donc ce que j'allais dire, c'est qu'en 2026, on arrive à 2027 et que la proposition de loi n'a pas été adoptée, tous les travaux législatifs en cours sont suspendus.
Voilà, et je dirais même que si on obtient un report à l'automne prochain, on rentre dans une zone très compliquée pour que les partisans du texte...
Contre la montre, ouais.
Exactement. Ce qui fait que cette proposition de loi référendaire du sénateur Spinner est une excellente idée. En l'occurrence, il faut 185 co-signataires, 185 parlementaires qui co-signent cette proposition de loi pour que le Conseil constitutionnel soit tenu d'étudier cette proposition de loi, enfin ce projet de référendum plus concrètement. Et cela signifie, on arrive à 185 co-signataires avant la seconde lecture au Sénat, eh bien, ce sera un motif, un excellent motif de report de l'examen du texte. Alors, où en est-on de ces co-signataires ?
Excusez-moi, Ludovine de la Rochère, qui en déciderait dans ce cas du report ?
Alors, dans ce cas-là, il sera tout à fait logique que la conférence des présidents du Sénat décide d'un report en attendant l'avis du Conseil constitutionnel.
D'accord.
Donc 185 signataires nécessaires, il n'en manque plus qu'une quarantaine. On n'est pas très loin du but. 40 supplémentaires sont accessibles. Cela veut dire qu'il faut absolument écrire urgemment aux députés, aux sénateurs. Alors chacun peut le faire pour sa circonscription, pour son département. Et pour cela, vous pouvez le faire en quelques instants à partir du site internet du syndicat de la famille, le syndicatdelafamille.fr, et vous accéderez tout de suite à la plateforme pour écrire aux sénateurs et de là à la plateforme pour écrire aux députés. Et donc la demande à faire, c'est de co-signer la proposition de loi référendaire du sénateur Spinner sur la fin de vie. Les députés et les sénateurs ont tous reçu cette proposition. Ils savent très bien comment faire pour la co-signer. Et là, il faut aller vite. Il nous reste 15 jours, mais c'est accessible.
Question d'un auditeur comme ça, pardon, mais il y en a combien de personnes au Rassemblement national ne sont pas encore convaincues actuellement ?
Alors, le Rassemblement national, d'une manière générale, enfin les parlementaires du Rassemblement national sont plutôt opposés au texte, mais pas en totalité.
Je crois qu'il en reste 23, quelque chose comme ça, ou 22, quelque chose comme ça, qui n'ont pas voté effectivement pour...
Voire qui ont même voté contre.
Oui, c'est ça, qui ont voté pour l'euthanasie. Donc,
absolument. Oui. En tout cas, je sais que pour le moment, les députés du Rassemblement national n'ont pas tellement co-signé cette fameuse proposition de loi référendaire du sénateur Francis Spinner. Donc, il faut absolument les appeler à le faire urgemment. Ils ont tout ce qu'il faut déjà dans leur boîte mail pour le faire.
Il nous reste une minute, Ludovine de la Rochère. Si cette proposition de loi n'est pas suffisamment co-signée, que se passera-t-il ?
Alors, dans ce cas-là, la seconde lecture au Sénat se déroulera les 11, 12 et 13 mai. Mmh. Et j'allais dire, là, l'enjeu, c'est la réécriture complète du texte pour le vider complètement de sa substance. Cela veut dire beaucoup d'amendements. Cela veut dire aussi que les sénateurs doivent être mobilisés. Et là, il y a un enjeu, enfin, il y a un risque, c'est que nous serons la semaine de l'Ascension. Mmh. Donc, ils vont travailler lundi, mardi, mercredi. Et puis, mercredi, il y a les questions au gouvernement en début d'après-midi. Le risque, c'est qu'ensuite, ils repartent tous. Mmh. Et là, quand on en sera à quelques jours de cette semaine-là, enfin, la semaine précédente, la fin de la semaine précédente, il faudra leur écrire pour leur demander, et spécifiquement aux sénateurs, d'être présents, d'être mobilisés et de ne pas partir s'égayer en vacances. Mmh. Ils devront rester à Paris dans l'hémicycle, déposer des amendements, défendre des amendements et être extrêmement actifs.
Voilà, donc Ludovine de la Rochère, merci de nous rappeler que tout n'est pas perdu, qu'il reste encore de l'espoir. C'est un message qu'on essaie toujours de passer ici à Ligne Droite chez Radio Courtoisie aussi en général. Voilà, tout n'est pas encore fait. Merci Ludovine de la Rochère d'avoir été avec nous ce matin. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour
rediscuter ça. Merci Alexandre.
Ligne Droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous recevons Jean Messia comme toutes les semaines. Bonjour Jean, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Bonjour aux auditeurs.
Eh bien écoutez, de l'autre côté, ça se passe très bien. Alors il y a plusieurs sujets que vous vouliez aborder. Tout d'abord, vu que c'est l'actualité la plus récente, quelque part, les débordements en marge de la victoire du PSG. Jolie victoire 5-4 contre le Bayern Munich, mais aussi victoire des débordements.
Oui, tout à fait. Alors bon, c'est comme chacun sait, ça devient maintenant un rituel. Hein. Oui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire. À chaque fois que nous avons une victoire du Paris Saint-Germain, voire d'ailleurs une victoire de l'équipe de France, nous avons des hordes de racailles qui se mêlent à des supporters qui, eux, sont là pour faire effectivement la fête et qui sèment la destruction, les affrontements avec la police, le pillage, etc. C'est d'ailleurs assez interrogant parce qu'on pourrait penser, dans un pays dont le peuple serait homogène, ce qui était le cas d'ailleurs dans la France d'antan, on pourrait, imaginer que les gens descendent festoyer. Alors bien sûr, vous me direz que dans les années 60-70, lorsque on avait des victoires de football, il y avait toujours quelques supporters éméchés.
Ce que j'allais dire, Jean Messia, c'est que pour le coup, le football et le sport, enfin le sport et plus particulièrement le football, ça a toujours été aussi le théâtre de débordements de manière générale. C'est-à-dire que les gens sont enflammés quelque part et puis les bagarres entre supporters, c'est pas quelque chose qui date de l'immigration quelque part.
Oui, déjà, si vous voulez, vous avez tout à fait raison. Sauf que il y a quand même une différence entre quelques roulades dans la figure de deux ou trois pochetrons en fin de soirée, si vous voulez, qui se terminent par des œils au bord noir et des vitrines fracassées, des policiers blessés, des rues laissées dans un état comme si une tornade était passée, si vous voulez. Mmh. Les débordements ont toujours existé, mais vous voyez bien que dans la dimension et l'ampleur des débordements, il y a un incrément identitaire, ou plutôt alter-identitaire, qui n'existait pas naguère. Je suis désolé, mais dans les années 60 et 70, on ne voyait pas des drapeaux algériens, des drapeaux marocains, des drapeaux tunisiens. On ne voyait pas non plus un certain nombre de profils que l'on voit aujourd'hui qui sont prêts à en découdre dans une forme de furie, presque vengeresse, par rapport à la police, qu'on confond souvent d'ailleurs avec la France. Il y a quelque chose, si vous voulez, dans ces débordements, de l'explosion de lave alter-identitaire, de ce volcan qui couve dans nos cités, qui d'ailleurs n'est pas toujours en activité, mais qui, lorsque prétexte lui est donné, se remet en activité et explose sa lave alter-identitaire dans les rues de nos grandes villes. Il y a, je pense, dans les victoires du football, un prétexte à réactiver une forme de guerre civile larvée entre des composants ou des populations sur le sol français qui sont en sécession, non pas avec la République, en sécession avec la France, des zones de non-France, qui, à la faveur d'un certain nombre de manifestations, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, parce que malheureusement, il n'y a pas que les manifestations sportives, il y a toute forme de manifestations, eh bien, viennent exprimer son irrédentisme alter-identitaire, sa haine de la France, sa haine des Français, sa haine de la police.
Mais Jean Messia, pardon, d'une certaine façon, on pourrait très bien dire aussi que, en l'occurrence, je pense pas que, par exemple, la victoire du PSG, les immigrés, et descendants d'immigrés, viennent dans les rues en se disant « Ah là là, je déteste la France, donc je vais tout saccager ». C'est-à-dire qu'il y a un côté où, évidemment, c'est lié plutôt à la liesse, on va dire, qui embarque ces personnes. Encore une fois, hein, je ne défends pas du tout ce qu'ils font, mais dans le fond, sur la question des motivations, j'ai pas l'impression que ce soit la haine de la France qui les motive à tout casser d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte d'excès, de pulsion quelque part, mais pas forcément de pulsion anti-française.
Ah bon ? Alors pourquoi lorsqu'il y a des liesses semblables en Algérie, par exemple, ou au Maroc, ils ne cassent rien ?
Parce qu'il y a une politique sécuritaire qui est bien plus dure. Et parce qu'ils savent qu'ils auront des conséquences bien plus difficiles.
Vous avez raison, mais c'est qu'une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que quand on aime un pays, on ne casse pas gratuitement les biens publics de ce pays. Mmh. Voilà. Il n'y a pas, si vous voulez, on n'attaque pas les forces de l'ordre, on ne s'attaque pas aux symboles français. On a même vu dans certaines manifestations de l'IS, on a déjà vu des gens porter des drapeaux français être attaqués, des drapeaux français même être décrochés. Enfin, qui en Algérie, lorsqu'ils manifestent, décroche des drapeaux algériens ? Il y a évidemment, et ça serait une grosse erreur de ne voir, justement, c'est ce que je reproche d'ailleurs à la plupart des médias gaucho-progressistes dominants, c'est qu'ils ne voient ces scènes que par l'ornière sécuritaire, quand ils veulent bien les voir. Parce qu'il y a même certains médias qui ne parlent pas de sécurité, parce que la sécurité, c'est d'extrême droite. Oui. Donc on n'en parle pas.
D'ailleurs, Jean Messia, vous, justement, sur ce... Enfin, je vous embarque... finissez, et puis je vous embarque sur un autre sujet juste après.
Oui, donc je disais qu'il y a bien sûr quelque chose qui relève du hooliganisme. Il y a, on va dire, une deuxième couche qui relève, effectivement, et vous avez raison, de la stricte approche sécuritaire de jeunes qui foutent le bordel, comme on dit. Mais il y a aussi une troisième couche qu'on ne peut pas ne pas voir et qu'on ne peut pas ne pas exprimer, c'est une couche d'irrédentisme alter-identitaire post-colonial qui s'exprime contre la France. Je crois qu'il y a ces trois ingrédients dans ces débordements.
Alors, juste sur un autre sujet de ce que vous appelez donc ce gaucho-progressisme, il y a un candidat de gauche à la présidentielle qui voudrait passer par une forme de primaire de la gauche, qui est hostile à l'immigration de travail. C'est François Ruffin. François Ruffin qui, bien sûr, pas besoin, je pense, de trop s'attarder là-dessus, mais a soulevé une bronca parmi la France insoumise et une partie des écologistes. Mais il a dit, je suis hostile à l'immigration de travail. Je ne veux pas que ce qu'on a fait hier sur l'industrie, on le refasse aujourd'hui sur les services. Est-ce qu'il n'y a pas quand même du progrès ? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, même là, même de ce côté-là, ça bouge ?
Vous savez, la vérité a des ailes. Hein. Rien ni personne n'a jamais su empêcher éternellement son envol. François Ruffin dit ce que disait grosso modo le Parti communiste et Georges Marchais au tout début des années 80. Mmh. Évidemment que, si vous voulez, quand on regarde le phénomène migratoire, à la base, le regroupement familial est poussé par le patronat français qui a refusé de faire le saut de la robotisation et de l'automatisation que faisait à son époque l'Allemagne, parce que ça nécessitait des investissements colossaux et le patronat français, toujours myope et aveugle aux grandes évolutions de long terme, hein, puisque le patronat français a toujours une vision à 5 ans maximum, il s'est dit pourquoi diable les Allemands, ces fous, vont-ils investir autant dans l'industrie alors que nous avons, nous, une main-d'œuvre malléable et corvéable à merci qui ne nécessite pas de grands investissements et qui fait le job. Et donc,
après, je suis pas sûr que le patronat allemand ait fait beaucoup mieux à la fin des fins, mais bon.
Ah bah après, oui, si vous parlez de 2015, oui, en effet. Mais je veux dire, en 81, au moment où le patronat allemand, à la fin des années 70, choisissait les investissements dans la robotique et l'automatisation, le patronat français, lui, choisissait l'investissement dans l'immigration, voulait fidéliser les ouvriers immigrés, parce que vous savez, c'était la grande querelle de l'époque. Vous aviez des immigrés qui arrivaient dans une immigration de travail, justement, pour un contrat de 2-3 ans. Oui. Il y avait les 6 premiers mois où le patronat les formait. Donc, la formation coûte évidemment de l'argent parce qu'ils ne sont pas opérationnels ou pleinement opérationnels pendant ces 6 premiers mois. Et au moment où ils deviennent opérationnels, le temps de rentabilité, c'est-à-dire grosso modo 2 ans à 2 ans et demi, était jugé trop faible pour les patronats. Et donc, pour éviter le rollover, si vous voulez, de ces immigrés qui étaient remplacés
tous les 2-3
ans par d'autres immigrés, le patronat a dit, bah, écoutez, si on ne peut pas fidéliser les travailleurs, eh bien, on va les fidéliser avec leur famille. Donc, si les travailleurs, au lieu que les travailleurs partent, faisons venir leur famille.
Oui.
Et comme ça, nous pourrons, une fois formés pendant les 6 premiers mois, nous pourrons profiter de cette rentabilité, non plus pendant 2 ans ou 3 ans, mais pendant toute la durée d'une vie de travail.
Oui.
Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Et donc, qu'est-ce que ça… Alors, ça, c'est de l'immigration légale au départ, qui d'ailleurs a tué, a concurrencé, si vous voulez, dans une époque en plus de chômage de masse qui arrivait à partir des années 80, a tué, si vous voulez, a participé du chômage français, en quelque sorte. Et puis, c'est rajouté, évidemment, le travail illégal, parce que le patronat, il ne se contente pas simplement d'une main-d'œuvre malléable et corvéable, mais légalement payée, c'est-à-dire soumise au code du travail, soumise au salaire minimum, à ses droits syndicaux, etc. Ils veulent aller plus loin. Donc, les immigrés illégaux permettent justement de basculer dans une autre dimension où le salarié est payé moins, il n'a pas de droit, il n'a pas de couverture, il n'a pas, etc.
Mais
et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, je termine juste, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on demande la régularisation des travailleurs illégaux, comme le fait la gauche depuis une quarantaine d'années? On fait basculer les illégaux dans la légalité, donc du coup, ils retrouvent un salaire légal, le droit du travail auquel ils ont droit, le droit syndical auquel ils ont droit aussi, et donc ils ne sont plus aussi intéressants qu'ils ne l'étaient quand ils étaient illégaux. Donc c'est pour ça qu'ils sont remplacés par d'autres illégaux. Donc c'est un tonneau des Danaïdes économiques, en fait.
Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'une bonne partie de la gauche explique qu'il suffit de régulariser les clandestins et puis finalement de régulariser tout le monde pour que effectivement ça avance sans regarder les conséquences derrière. Mais justement, sur le fait que François Ruffin, lui, ait une position un peu détonnante par rapport à cette gauche, comment vous le voyez ?
Alors, j'allais y venir. François Ruffin, je le disais, j'avais en exergue à mon propos, il renoue avec son ancienne tradition communiste des années 80, qui voit qu'effectivement, la main-d'œuvre légale, mais encore plus la main-d'œuvre illégale, concurrence de plein fouet les conditions sociales des travailleurs français. Voilà, il a compris, si vous voulez, que à force d'être mondialisé, la gauche a perdu les ouvriers français et a même tiré contre son camp, parce que c'est quand même le grand paradoxe, et je pense que Ruffin est un mec suffisamment intéressant et intelligent pour l'avoir compris, le grand paradoxe de la gauche qui se veut le fer de lance du progrès social, le fer de lance des droits et des acquis sociaux, le grand paradoxe, c'est que cette même gauche va défendre en fait l'arrivée de personnes malléables et corvéales à merci, qui n'ont aucun droit et qui sont les esclaves des temps modernes, si vous voulez. Donc, c'est vraiment la grande aporie de l'idéologie gauchiste aujourd'hui que de se draper des oripeaux du courant idéologique qui défend les travailleurs tout en œuvrant pour que les travailleurs deviennent en fait un lumpen prolétariat qui sera payé au rabais, qui n'aura plus aucun droit, etc., au nom du progrès social. Vous voyez,
Jean Messier, je reste un petit peu sur la gauche parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'a assez fasciné. J'ai pensé à vous justement en regardant cet extrême. Il y a eu un débat qui a été réalisé sur la chaîne de l'Humanité il y a environ une semaine, dans lequel on voit justement un parlementaire porte-parole du Parti communiste français qui débat face à Antoine Léaumont sur la question de la Nouvelle-France. Et alors, ce qui est assez fascinant dans ce débat, bien, c'est que ce porte-parole du PCF, lui, pour le coup, ne soutient pas l'emploi du terme Nouvelle-France, mais au nom d'un argument qui peut paraître étonnant, c'est qu'il dit « Eh bien, je ne crois pas à la Nouvelle-France, car la France a toujours été une terre d'immigration. »
C'est totalement faux. La France n'a pas toujours été une terre d'immigration, même dans les grands mouvements qu'on présente comme des mouvements migratoires, comme par exemple les Italiens, les Belges dans les années 20, etc. C'était une immigration. Alors tout dépend ce qu'on met dans le terme immigration.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait dépasser par sa gauche, par justement des gens qui parlent de Nouvelle-France, donc quelque part du grand emplacement. C'est ça qui est assez fascinant.
Bien sûr. C'est-à-dire que d'abord, l'immigration, si vous voulez, c'est pas un phénomène monolithique. L'immigration est une réalité, revêt plusieurs réalités. Mmh. Il y a l'immigration temporaire, l'immigration de travail temporaire, l'immigration qui consiste à venir sur un contrat pour aider dans les vidanges, etc. Il y a l'immigration qui est là pour un peu plus longtemps, une immigration de longue durée, mais qui reste étrangère. C'est typiquement les cartes de séjour qu'on délivre tous les 5 ou 10 ans. Et vous avez une immigration qui s'assimile et qui a donc vocation à devenir française. Ça, c'est une immigration beaucoup plus homéopathique et elle a été toujours homéopathique dans l'histoire. Donc, ce que dit la terre d'immigration, oui, sur le plan du travail, certainement pas sur le plan de l'installation, de l'assimilation, de l'acculturation des immigrés à la France. Les immigrés repartaient pour la plupart. Il y a un tout petit volant qui était in fine assimilé. Et ce que veut dire Léo Mans par cette nouvelle France, c'est que désormais, une partie de la gauche accepte et promeut l'idée que la France doit être colonisée, doit être soumise. Je fais le lien avec ce que disait la parole extraordinaire d'Éric Orsenna, ancien conseiller.
La grande irrigation.
La grande irrigation, qui est encore, c'est une déclaration encore plus folle que celle que vous me citez. Là, si vous voulez, c'est un socialiste. C'est ni un membre de la France insoumise, ni un communiste. C'est un socialiste bontain, un progressiste, dirait-on, qui justifie, si vous voulez, la colonisation, le déversement de l'Afrique en France. Voilà. Sans aucun égard pour l'identité nationale française, pour l'idée que la France est comme n'importe quelle nation, c'est-à-dire qu'elle a une culture, une histoire, une façon d'être. Pour ces gens-là, et c'est encore le grand paradoxe de la gauche, la grande gauche humaniste, prétend aujourd'hui que les êtres humains sont interchangeables. Mmh. Alors que la gauche devrait être justement celle du respect des différences, celle du respect des cultures, des nations, des civilisations, des religions. Non, la gauche aujourd'hui est devenue une gauche qui a rejoint finalement le néolibéralisme mécaniste qui considère que les êtres humains ne sont que des agents économiques producteurs et consommateurs qui sont interchangeables. Ce ne sont que des homo economicus coupés de toute forme d'irrigation, justement, de leur univers civilisationnel, de leur culture, de leur religion, de leur langue, de la manière dont ils appréhendent l'autre, parce que toutes les nations n'ont pas un rapport à l'altérité identique. Et la France n'y fait pas exception. Et cette gauche qui va défendre exactement mot pour mot ce que je suis en train de vous dire partout sur la Terre viendra vous expliquer que par progressisme, par modernité, la France n'a pas à défendre cela. La France n'a pas à se défendre elle-même. La France doit accepter d'être transformée, d'être remplacée, d'être irriguée par un sang qui n'est pas le sien pour devenir autre chose que ce qu'elle n'est. Donc ça rejoint, et je conclurai par ça, ça rejoint le propos que je tenais à votre antenne la semaine dernière. Au final, où est la haine ? N'est-ce pas la haine de ceux qui haïssent tellement la France qu'ils veulent la voir disparaître au profit de ce qu'ils appellent une nouvelle France, qui est un mot qui exprime sous les phares avenants de la positivité quelque chose qui relève en réalité d'une forme de suicide collectif au profit d'une nouvelle vie qui ne serait plus française. Donc c'est la haine de la France. Ces gens-là sont animés par la haine de la haine de la France telle qu'elle est. Mmh. Ils n'en veulent plus, ils la haïssent et ils rêvent que cette France soit remplacée par quelque chose d'autre.
Alors, finalement, d'une certaine façon, il nous reste une minute pour conclure, Jean Messia, mais finalement, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que finalement, le PCF se retrouve à être un parti qui défend l'identité française, mais une identité française fantasmée et immigrationniste.
Exactement, mais vous savez qu'il y a eu une grande époque où le Parti communiste français se posait la question s'il fallait conserver français dans son sigle. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais quand le Parti communiste français a déménagé au Colonel Fabien, où il y a eu les défilés Prada qui ont été tenus au siège du Parti communiste français, il y a eu une grande interrogation portée à l'époque par Robert Rue pour savoir si le Parti communiste devait continuer à se considérer comme français et s'il n'était pas d'extrême droite de conserver ce terme français. Ouais. Ça en dit long et ça a accouché des monstruosités que l'on entend aujourd'hui au Parti communiste. Mmh.
Merci beaucoup Jean Messia d'avoir été avec nous ce matin. Et bien écoutez, il y avait d'autres sujets qu'on devait traiter ensemble, mais peut-être qu'on les gardera pour la semaine prochaine avec les nouveaux développements qui arriveront. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à jeudi prochain. Et tout de suite, on passe à la chronique de l'Orient simplifié, puis la revue de presse de Gilles Brochard.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et pour cette nouvelle chronique de l'Orient simplifié, nous recevons Jean Vallier. Jean Vallier, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'Arménie et vous venez nous parler du patrimoine arménien, ou plutôt d'ailleurs de la destruction du patrimoine arménien.
Oui, tout à fait. Depuis quelques jours, des photos satellites l'avaient révélé. La cathédrale arménienne Sainte-Mère de Dieu de Stepanakert a été détruite par le gouvernement azerbaïdjanais. Mmh. Stepanakert, pour les auditeurs qui n'ont pas en mémoire la géographie du Caucase, et on les comprend, ça arrive, c'est la capitale de l'Artsar, cette petite république autoproclamée qui a existé de 1991 à 2023. On s'en souvient, en 2023, après un blocus de plusieurs mois et une guerre éclair de 24 heures, la République arménienne d'Artsar cessait d'exister. La totalité des 120 000 Arméniens qui y vivaient étaient contraints de quitter leur village, d'abandonner leurs églises, leurs cimetières. Des images déchirantes d'Arméniens préférant brûler leurs maisons plutôt que de les voir envahis par la soldatesque azerbaïdjanaise. Bref, 3 ans plus tard, comme le président azéri Ilham Aliyev l'avait promis, cette terre est désarménisée, si j'ose dire. Les villes ont changé de nom, Souchi est devenu Choucha, Stepanakert est devenu Kankendi. Et nouvelle étape de cette désarménisation, le patrimoine est détruit. Le lundi 27 avril 2026, donc lundi dernier, le Bureau des musulmans du Caucase, la plus haute autorité religieuse d'Azerbaïdjan, a confirmé la destruction de la cathédrale. Ainsi, pour ce Bureau des musulmans du Caucase, je le cite, « La démolition de 2 bâtiments construits illégalement à Kankendi, c'est le nom donc azéri de Stepanakert, pendant l'occupation des territoires azerbaïdjanais, décidément, ne peut en aucun cas être déformée pour être présentée comme une destruction du patrimoine religieux ou culturel. Mmh. » Vous avez bien entendu, il s'agit de destruction de bâtiments construits illégalement. D'ailleurs, si le gouvernement azéri, présenté comme un modèle de tolérance religieuse dans ce communiqué, a détruit ces constructions illégales, c'est bien toujours selon le même communiqué à l'appel de citoyens.
Si ce n'est pas une destruction du patrimoine religieux ou culturel, qu'est-ce ?
Eh bien honnêtement, je ne sais pas. Certes, cette cathédrale était assez récente. Elle a été consacrée en 2019. Après 12 années de travaux 2019, nous sommes seulement un an avant la guerre des 44 jours, à la fin de laquelle l'Artsar s'est fait amputer des 3/4 de son territoire. D'ailleurs, pendant cette guerre de 2020, l'édifice avait servi de refuge à des civils pris sous les bombardements. Bref, tout aussi récente soit-elle, cette cathédrale de la Mère de Dieu illustrait une certaine vitalité chrétienne en Artsar, mais aussi l'arménité de cette région. Mmh. Par sa destruction, le pouvoir azéri veut donc marquer les lieux de son empreinte. Notons d'ailleurs que ce n'est pas la seule église de la ville à avoir été détruite. Déjà au début de ce mois d'avril, l'église Saint-Jacques, toujours à Stepanakert, avait été démolie. Et plus largement, en Artsar, le patrimoine arménien est menacé quand il n'est pas totalement attaqué ou supprimé, comme on l'a vu. Les Rachkars, ces magnifiques calvaires de pierres sculptées, sont abattus et quand les églises et monastères ne sont pas détruits, leurs toits à arêtes si caractéristiques de l'architecture arménienne sont remplacés par des toitures rondes moins marquées et sans doute aussi plus compatibles avec leur nouvelle fonction de mosquée.
Alors suite à ces destructions, quelles ont été les réactions en Arménie et dans le monde ?
Alors, en Arménie, l'église apostolique, en découvrant les images satellites de la destruction, a évidemment protesté. le Saint-Siège d'Etiemadzin, a appelé le gouvernement arménien et la communauté internationale à, je le cite, « prendre des mesures décisives pour mettre un terme à ce qu'on peut qualifier de crime culturel ». Les organismes internationaux de protection du patrimoine ont déjà protesté sur ce genre de sujet. Je pense notamment à l'UNESCO qui a demandé en novembre dernier l'envoi d'une mission d'expertise technique indépendante sur place. Cette demande est restée lettre morte. L'Azerbaïdjan prétextant, nous l'avons dit, qu'il ne s'agissait pas de patrimoine culturel, mais bien de constructions illégales. Enfin, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a clairement refusé de se prononcer sur le sujet. « Nous devons aborder ces sujets avec prudence », a-t-il déclaré lors d'un point presse, « car ils sont à double tranchant. Compte tenu de notre expérience passée, je pense que nous n'en ferons pas un sujet de discussion internationale. » L'expérience passée, comme le dit Nikol Pachinian, est pourtant éloquente. Ainsi, en Nakhitchevan, cette province historique d'Arménie, azerbaïdjanaise depuis 1990, des milliers de rashkars ont été détruits au début des années 2000. Dans ce qui était autrefois l'Arménie occidentale, c'est-à-dire aujourd'hui une partie de la Turquie, de nombreuses églises et monastères arméniens ont été détruits, abandonnés, transformés au cours du XXe siècle, à la suite du génocide de 1915.
Alors pourquoi une telle réaction, plutôt une telle absence de réaction de la part du gouvernement arménien ?
Eh bien parce que Nikol Pachinian est en pleine campagne électorale et que sa campagne se fait notamment sur la normalisation des relations de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. Deux pays qui, au passage, continuent de nier le génocide arménien. Alors vous pensez bien que dans un tel contexte, à la veille d'échéances électorales cruciales pour lui, l'Artsar est un boulet et sa mémoire est un fardeau qu'on ne peut plus assumer. Cette campagne se traduit également par un conflit ouvert avec l'Église apostolique arménienne et son catholicos. Nous en avons parlé de nombreuses reprises à ce micro. Certains évêques sont en prison, d'autres sont en résidence surveillée, etc., etc. J'en ai rencontré un la semaine dernière qui est interdit de sortie du territoire. Et c'est cela même des répercussions en France, puisque mardi dernier se tenait l'inauguration de la nouvelle ambassade d'Arménie en France, une cérémonie en grande pompe, de laquelle ont été exclus les dirigeants du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, mais aussi le représentant de l'Artsar en France, ou encore Mgr Grégor Katchatrian, évêque des Arméniens de France, considéré comme trop proche du catholicos.
Et on imagine que si en Arménie vous étiez avec Adèle Rosner, notre excellente journaliste qui est passée cette semaine d'ailleurs dans la matinale.
Mais je l'ai écoutée avec attention.
Parfait, j'espère qu'elle n'a pas dit trop de bêtises.
Elle est brillante comme toujours.
Toujours, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Vallier d'avoir été avec nous ce matin, on vous dit à bientôt sur Ligne Droite.
À bientôt.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et désormais nous recevons Gilles Brochard pour sa revue de presse. Oui. Bonjour Gilles, est-ce que vous êtes bien avec
Alexandre.
Nous
Bonjour Alexandre, bonjour Arnaud, bonjour chers auditeurs.
Alors, on reparle de David Lisnard, candidat à droite en 2027.
Oui, alors Emmanuel Galliero signe dans le Figaro un portrait de celui qui s'est lancé en solitaire dans la présidentielle sous couvert de son mouvement Nouvelle Énergie. Alors un mois après son départ de LR, le maire de Cannes a le sentiment d'avoir eu raison de s'éloigner d'une, je cite, « ambiguïté » et reste guidé par une double ambition. Ma finalité, c'est le redressement du pays. Mon objectif, c'est gagner la présidentielle. Mais bien pour diriger la France, il faut gagner une élection. Il faut aussi être capable de refuser le pouvoir quand celui que l'on vous propose vous empêche d'agir ou trahit vos convictions. Alors évidemment, derrière cette confidence, l'élu pense notamment aux missives qu'il adressait à Bruno Retailleau pour le mettre en garde face à l'erreur fondamentale, je cite, d'accorder sa confiance à François Bayrou et de participer à un gouvernement macroniste. Car pour David Lisnard, le résultat est que tout le monde est convaincu que les LR sont engagés dans le gouvernement. Toutefois, de façon un peu paradoxale, le maire de Cannes continue de défendre inlassablement la piste d'une grande primaire à droite. Cependant, quand il cite les noms de ceux qui pourraient y participer, on s'étonne un peu. Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, Aurore Berger, Philippe Juvin, Jean-François Copé, Sarah Knafo ou encore Éric Zemmour, Dupont-Aignan. Bon, on a envie de lui dire, cherchez l'erreur, que viennent faire Gérald Darmanin et Aurore Berger dans cette liste qui ont toujours été macronistes. Et je ne parle pas de Copé, bien sûr. Bizarre. Ou alors, ce serait peut-être une stratégie pour mieux les éliminer et ne garder que celui qui se situe le plus à droite. Alors, David Lisnard, comme candidat libéral, écrit encore le Figaro, veut proposer un projet complet destiné à préparer la révolution de bon sens. Un projet appuyé sur quatre piliers. Liberté individuelle, responsabilité personnelle, propriété privée et dignité de la personne. Le chef de Nouvelle Énergie ira donc jusqu'au bout pour transformer le besoin de liberté en attente politique majoritaire. Une autre manière de comprendre que l'ambition de David Lisnard ne doit pas être comprise comme celle d'une simple niche électorale, voilà, à lire dans le Figaro.
De son côté, le député Boris Vallaud, patron des socialistes à l'Assemblée nationale, publie un manifeste pour la démarchandisation.
Oui, alors, mais de quoi s'agit-il, hein ? L'Opinion, le quotidien L'Opinion lui consacre sa une pour mieux dénoncer ce concept qui veut réenchanter le projet de gouvernement de la gauche. Dans son livre, écrivent Antoine Oberdoff et Marc Vigneault, il y a une critique d'un monde où tout est devenu marchandise, dévoré par un capitalisme financier qui ne sert plus à produire, mais à pomper la valeur créée dans l'économie réelle. Le capitalisme ne survivrait plus qu'en poussant les États, mais aussi les ménages et les entreprises à s'endetter toujours plus. Stade suprême du capitalisme, la marchandisation à outrance de nos données par les plateformes numériques comme Facebook ou TikTok sous couvert de gratuité de services rendus. Alors le journal démonte point par point les mesures proposées par l'ancien disciple d'Arnaud Montebourg. Au fond, comme le souligne un proche d'Olivier Faure, Boris Vallaud revisite les classiques de l'altermondialisme. On a l'impression de revenir en 2001 au forum social de Porto Alegre avec des gens qui scandent « Nos vies ne sont pas des marchandises ». Une nouvelle version en somme de la démondialisation à la Arnaud Montebourg, le talent oratoire en moins, voilà, c'est à lire dans l'Opinion.
Et puis vous avez lu sur le site Atlantico un article qui revient sur le livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, publié il y a un siècle et qui reste bien sûr d'actualité.
Oui, alors Mathieu Crézon a eu la bonne idée de reparler de Gustave Le Bon, surtout connu aujourd'hui pour sa Psychologie des foules, parue en 1895, dans lequel il montre que les meneurs les plus célèbres de l'histoire ont réussi à parler à l'esprit des foules et à les manipuler, non pas en recourant à des preuves ou à des démonstrations convaincantes, non, mais bien plutôt à des images, à des répétitions, à des idées sommaires. Il rappelle qu'Adolf Hitler ou Benito Mussolini s'en étaient inspirés pour s'adresser aux foules, et il fait un parallèle aujourd'hui avec la dialectique de Jean-Luc Mélenchon. On peut aussi noter chez le leader LFI l'importance donnée à l'affect, écrit-il, dans ses discours, ainsi que la répétition de mêmes mots ou formules. Ainsi, lorsqu'il emploie trois fois dans la même phrase, dans un entretien en 2025, le mot « islamophobie », je cite, « ce n'est pas la laïcité », a-t-il déclaré, « c'est le prétexte à l'islamophobie parce que je découvre beaucoup de nouveaux laïcs depuis quelque temps dont la spécialité est l'islamophobie, qui est une islamophobie injurieuse ».
Islamophobie,
alors Jean-Luc Mélenchon a parfaitement compris, pour citer Gustave Le Bon, que les mots et les images ont plus de pouvoir sur les âmes des multitudes que tous les arguments. Voilà, c'est à lire sur le site d'Atlantico.
Et puis, alors, on change légèrement
ouais, on change
de sujet. Voilà, légèrement, hein, on va passer. Voilà, la pistache est à la mode et un magazine fait son éloge et propose des recettes.
Ben voilà, c'est le lot des revues de presse de fin de semaine. La France est devenue en quelques années un grand consommateur de pistaches, un fruit à coque venu d'Iran, de Bulgarie, de Californie, de Sicile ou d'Espagne, que l'on appelle même l'or vert de la pâtisserie. Voilà, c'est un marché aussi. Alors, Food Pâtisserie consacre un numéro hors série 100% pistache, accompagné de 80 recettes des plus grands chefs français. Et Claire Pichon raconte que cet engouement en France a pris naissance en 2014 lors du rachat de la confiserie du roi René par le groupe Territoire de Provence.
Mais c'est pas
vrai. Et Olivier Bossan, son président, se plonge dans les recettes anciennes de la maison et s'aperçoit dans les nougats blancs provençaux que la pistache est partout. Il comprend que les pistachiers d'antan plantés dans la région ont aujourd'hui disparu. Ils ont été arrachés pour développer de la vigne. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à faire renaître la filière. Et aujourd'hui, raconte encore Claire Pichon, environ 45 hectares sont plantés, notamment sur le plateau de Valensole. Et le pistachier demande du temps. Hein. Il faut 6 ans avant une production récoltable. C'est un investissement lourd. Et en parallèle, Olivier Bossan a créé la maison de la pistache en souhaitant tendre vers une filière française entièrement bio. Une pistache bien séchée peut ensuite être consommée telle qu'elle, puis torréfiée ou transformée. Voilà, vous lirez aussi la liste des pâtissiers qui s'en servent aujourd'hui dans leur création, à lire dans Food de pâtisserie.
Et demain, c'est donc le 1er mai, il n'y aura donc pas de journaux.
Voilà, bah je ne serai pas là, mais je vous envoie quand même quelques brins, mon cher Alexandre, comme aux auditeurs de Muguet Virtuel.
Ah.
Et je vous conseille de lire l'article que lui consacre Frédéric Mouchon dans Le Parisien. Il est allé à Poigny-la-Forêt, près de l'étang de Guipro, c'est dans les Yvelines, à la recherche des petites clochettes porte-bonheur qui fleurissent par milliers. Seul le ramassage des tiges en fleurs est toléré, mais en quantité limitée, l'équivalent de ce que la main peut contenir. Voilà les consignes de l'ONF. Les agents forestiers mettent en garde les glaneurs trop gourmands, écrit Le Parisien. L'ONF précise qu'il ne faut surtout pas prélever le bulbe des fleurs au risque d'empêcher leur renouvellement. Voilà, bah, je vous souhaite un très joli 1er mai, mon cher Alexandre, comme à tous les auditeurs.
Mais Gilles, vous restez pour la zone libre.
Oui.
Zone libre.
Alors, deux grandes réflexions d'une grande profondeur que je vais vous apporter, mon cher Gilles. La première, c'est que finalement, cette fête des travailleurs là, du 1er mai, est-ce que ce serait pas la faute de la gauche si on déforeste le muguet, voilà, si le muguet disparaît, la gauche nuit à la biodiversité, ça c'est un premier point que je voudrais souligner.
C'est pas mal.
Deuxième point, sur la pistache, est-ce que vous savez qu'il y a depuis quelques mois une sorte de phénomène qui a commencé sur une sorte de sombre TikTok, qui est le chocolat Dubaï.
Je sais. Alors figurez-vous que...
Non, mais donnez un peu de contexte aux auditeurs, d'ailleurs, oui.
Oui, alors en fait, c'est une création avec du chocolat, de la pistache, du kadaïf, vous avez ces sortes de filaments craquelants qui sont très très bons. Et figurez-vous que l'année dernière, j'avais été avec ces mots de Koffler qui m'avaient fait découvrir cette gâterie, si j'ose dire, au Salon du Chocolat, que je ne connaissais pas. Bon, c'est vrai que il y avait un stand de Dubaï, j'en ai goûté, ça ne m'a pas fait monter plus que ça jusqu'au ciel, si j'ose dire. Moi, je préfère en effet les nougats à la pistache, je préfère les religieuses à la pistache, je préfère des desserts chocolatés avec les pistaches parcimonieux sans être écœurant. Voilà, bon, c'est,
oui,
c'est
parce que là, ça sent quand même la nourriture d'influenceurs dans le fond. Hein. C'est vraiment,
oui,
je crois que c'est vendu à un prix délirant. Je crois qu'on est à plus de 10 euros la plaquette.
Ah, oui,
enfin,
oui.
C'est.
Il y a deux tendances aujourd'hui qui m'exaspèrent un peu parce que c'est le matcha latte. Moi, je bois du matcha depuis 30 ans.
Et voilà, vous prenez du matcha avant que ce soit cool, Gilles.
Oui, et puis qu'il soit pas forcément latte parce que le matcha, je suis allé au Japon hein, voir la fabrication de ces feuilles de thé vert qui sont broyées à la meule de Kansai. C'est comme une meule qui tourne et qui vous donne cette poudre magnifique. Mais c'est ce qui est très agréable, c'est de le boire tiède à 70 degrés et c'est tellement meilleur que de le noyer dans le lait. Je voudrais terminer, mon cher Alexandre, avant cette chronique, je voudrais dire un mot quand même sur les fêtes de Jeanne d'Arc qui commencent aujourd'hui à Orléans, parce que j'y suis allé il y a deux jours, et je voudrais vraiment conseiller à ceux qui se trouvent à Orléans d'aller visiter la cathédrale Sainte-Croix, qui est sans doute une des plus belles de France, qui a duré 600 ans pour sa création, et ne pas manquer les 10 vitraux, je crois que c'est unique en France, il y a 10 vitraux qui retracent toute l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est absolument extraordinaire, et de voir aussi la statue, vous savez que Louis-Philippe avait offert en 1862, je crois, oui, 1862, il avait offert une sculpture magnifique que sa fille, vous savez que sa fille était sculptrice, et donc on voit devant l'hôtel de Groslot, l'hôtel Groslot, c'est l'ancien, après la Révolution, c'était l'hôtel particulier du bailli, et c'est devenu l'hôtel de ville, bon aujourd'hui l'hôtel de ville est en face, et ça c'est un hôtel qu'on peut visiter, qui est absolument magnifique. Et donc vous pouvez voir cette sculpture qui trône dans le jardin de cet hôtel.
Voilà, bah écoutez, une bonne, peut-être la seule raison d'aller à Orléans d'ailleurs, mais enfin une très bonne raison quand même.
Ah non, mais c'est une ville magnifique.
C'est une ville
qui s'est embellie, c'est extraordinaire. Vous allez à quelques kilomètres et vous visitez la manufacture de Martin Pourret, qui sont les derniers vinaigriers artisanaux qui font les plus belles moutardes de France.
Et ben voilà.
J'ai eu la chance de visiter cette manufacture qui a été reprise par deux hommes d'affaires entreprenants.
Gilles.
Et c'est très très bien. Voilà.
Et ben écoutez, voilà, la moutarde, le muguet, décidément, le chocolat, Dubaï, la pistache, décidément. C'est une matinale qui s'est terminée de manière culinaire. Merci Gilles d'avoir été avec nous. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, d'être présents chaque matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Mais si vous voulez être toujours présent parmi nous à l'avenir, eh bien, il va falloir qu'on vous sollicite un tout petit peu.
Et oui, pour participer à la vie de Radio Courtoisie ainsi qu'à son développement, faites-nous des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Voilà, merci encore d'être avec nous. Et puis, pour ceux qui nous quittent, je vous donne rendez-vous lundi parce que demain, nous ne diffusons pas. Et autrement, eh bien, ce sera le Debout les Français. Tout de suite, eh bien, nous retrouvons Yann Bali pour évoquer eh bien, le Liban.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous avons le plaisir de recevoir Yann Bali. Yann Bali, bonjour, vous êtes en direct du Liban. Liban, vous êtes sur le terrain et vous êtes, je rappelle, président de Chrétienté Solidarité. Alors Yann Bali, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu où vous êtes ?
Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous m'entendez ?
Parfaitement.
Bon, alors c'est parfait. Écoutez, je suis actuellement à l'extrême sud de Beyrouth, dans la montagne du Chouf, pour ceux qui connaissent, donc c'est-à-dire entre Beyrouth et ce qu'on appelle le sud Liban. Voilà.
Alors, justement, vous êtes présent directement sur le terrain. On entend beaucoup parler ces derniers temps d'une, après évidemment les frappes israéliennes, d'un conflit qui finalement ne s'arrête pas tout à fait. On compte encore 8 morts dans de récentes frappes. De manière générale, est-ce qu'on sent qu'il y a un vrai cessez-le-feu qui est respecté ? Est-ce que, de manière générale, les Libanais se sentent en cessez-le-feu ? Ou alors, est-ce qu'ils se sentent en guerre et dans une sorte de trêve temporaire ou dans une trêve temporaire ?
Non, le cessez-le-feu en pratique ne concerne que Beyrouth. Que Beyrouth et le nord du Liban, il n'y a plus de frappe sur Beyrouth depuis que ce cessez-le-feu a été décrété. En revanche, dans le sud où j'étais hier, là, la guerre continue et elle s'intensifie. Il y a eu une nuit très difficile. Je parle des villages chrétiens où je me suis rendu. Une nuit très difficile entre dimanche et lundi et la nuit précédente, c'est-à-dire la nuit entre mardi et mercredi, c'est-à-dire la nuit qui a précédé mon arrivée dans le sud, a été également très dure. J'ai rencontré hier un certain nombre de personnes, des établissements scolaires qui sont fermés, des jeunes qui doivent suivre leur cours en ligne. Ils m'ont dit tout ce qu'ils vivaient et pendant qu'ils témoignaient, on entendait le bruit des bombardements à quelques kilomètres derrière nous. Oui, il n'y a pas de trêve dans le sud. La guerre continue dans le sud.
Et alors justement, la guerre continue dans le sud, mais sur à peu près quel théâtre d'opération ? Parce qu'évidemment, on sait que Israël, voilà, se situe autour du fleuve Litani actuellement, sans qu'on sache vraiment quels sont ses objectifs. Actuellement, est-ce qu'il y a encore des civils qui se trouvent dans le sud, ou alors est-ce que tout le monde a été évacué justement vers des zones qui ne sont plus des zones potentiellement à risque ?
Alors, au sud du Litani, la plupart des villages ont été évacués. Les seuls villages où la population reste dans une quantité qui est importante, ce sont les villages chrétiens. Parce que les villages chrétiens ont compris que s'ils partaient, ils ne reviendraient plus. C'est-à-dire que leur village serait investi par des combattants du Hezbollah et par voie de conséquence, les Israéliens frapperaient leur village. Donc, il y a le sud est largement vidé, hormis ces villages chrétiens qui résistent. Évidemment, bon, il y a des villages qui sont non chrétiens où il reste des populations, mais le fait majeur, ce sont ces villages chrétiens qui sont absolument, dont la population est absolument admirable. Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. J'ai des témoignages exceptionnels que j'ai recueillis hier. Voilà, donc le sud n'est pas totalement vide. Et quant au théâtre des opérations, il va de la mer, disons, au mont Hermon. Hier, j'étais du côté de Marjayoun, donc qui est plutôt à l'est du côté du mont Hermon. Et là, c'est Riyam, c'est Binj Bail, et c'est là où ça frappe énormément ces dernières heures. Voilà. Mais également de l'autre côté, à Nakoura, du côté de la mer.
Alors, il y a une question qui se pose, bien sûr, c'est qu'on sait que deux militaires français, deux membres de la FINUL, sont récemment morts là-bas au Liban. Justement, est-ce que la FINUL n'est pas censée faire en sorte qu'il n'y ait, quelque part, que ce conflit soit au moins en pause et que, d'une certaine façon, empêcher aussi les troupes israéliennes comme celles du Hezbollah de mener des frappes de chaque côté ? Quel est le rôle exactement de la FINUL sur le terrain ?
À la FINUL, son cahier des charges n'est pas d'employer des moyens de coercition ou alors uniquement en position défensive. Donc vous comprenez bien que dans un conflit d'une aussi forte intensité qui oppose Israël et le Hezbollah, la FINUL est complètement démunie. Cela dit, hein, ça n'enlève rien au courage des soldats de la FINUL qui essayent de faire leur travail, mais qui font un travail d'accompagnement humanitaire, un travail d'intermédiaire. Voilà, quand on se rend dans les villages du sud Liban, quand les associations humanitaires, comme l'œuvre d'Orient, comme nos amis de Nawraj, se rendent dans le sud, bon, c'est la FINUL qui prévient l'armée israélienne et sans doute le Hezbollah qu'il y a un convoi humanitaire et qu'on ne tape pas dessus, quoi. Voilà. Donc la FINUL est là, c'est un rôle figuratif, mais c'est dans son cahier des charges.
Mmh. Maintenant, je voudrais revenir évidemment sur les villages chrétiens que vous avez pu voir et que justement tous ces chrétiens libanais que vous avez pu rencontrer. Une question qui se pose évidemment, c'est que si ce conflit a redémarré au Liban précisément, c'est à la suite de tirs de roquettes du Hezbollah qui ont suivi eux-mêmes l'attaque d'Israël sur l'Iran. Théoriquement, si on suit la logique des choses, Israël ne devrait pas frapper les villages chrétiens pour une raison simple, c'est que évidemment c'est le Hezbollah qui est en cause, Hezbollah chiite. Est-ce que il y a quand même des villages chrétiens qui sont frappés volontairement par Israël? Et si oui, comment ça se justifie d'une certaine façon?
Non, il n'y a pas de village, les témoignages sont clairs, il n'y a pas de village chrétien qui est frappé volontairement par Israël, excusez-moi. Il y a deux cas de figure, il y a des villages qui ont laissé s'installer des combattants du Hezbollah, et dans ce cas-là, Israël frappe les combattants du Hezbollah et par conséquence frappe des villages chrétiens. Et il y a aussi, comme ça a été le cas dramatique du curé de Cléa, oui, le père Rai, là c'est un éclat de missile qui a tué le prêtre de ce village. Mais voilà, les Israéliens recommandent aux chrétiens de quitter la zone pour ne pas créer de victimes dans la population chrétienne. Mais bon, ce que les populations chrétiennes ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de retrouver leur village comme un champ de bataille, quoi. Le fait qu'ils restent, ça permet d'éviter, avec la police libanaise qui reste et la gendarmerie libanaise, d'éviter que des combattants du Hezbollah ne s'installent et que leur village soit frappé par les tirs israéliens.
Mais on compte tout de même, pardon Yann Bali, mais on compte tout de même plus de 2600 morts donc depuis la riposte israélienne, et parmi eux donc un certain nombre de chrétiens, et puis même on compte je crois 1,5 million de déplacés dans le pays, donc ça fait quasiment un tiers de la population, parmi eux aussi de très nombreux chrétiens. Comment ça se fait que justement les chrétiens eux-mêmes soient dans cette situation difficile, alors qu'encore une fois effectivement théoriquement ils sont censés être en dehors de ce conflit qui concernerait que le Hezbollah et Israël?
Et voilà, c'est la conséquence de l'imbrication des communautés au Liban. Vous avez des chrétiens qui habitent aux limites de la banlieue sud de Beyrouth. Vous avez des chrétiens qui peuvent travailler dans des zones qui sont impactées par la guerre. Et dans le sud Liban, c'est un enchevêtrement de villages chrétiens au milieu de secteurs qui sont à majorité chiites et donc plus susceptibles d'accueillir des combattants du Hezbollah. Je serai dans quelques heures dans une enclave similaire au nord de la Beka, dans les villages de Ras Baalbek et de Ka, à la frontière syrienne. C'est une enclave chrétienne au milieu d'un océan chiite, si on peut dire. Mmh. Et tout autour d'eux, ça frappe. Leurs villages, les villages de Ras Baalbek et de Ka, ne sont pas frappés, mais évidemment, il peut y avoir lors d'un déplacement, lorsqu'on va à Beyrouth, on se trouve dans la plaine de la Beka, du côté de Baalbek, et sur des villages qui peuvent être bombardés. Donc là, il peut y avoir des victimes collatérales. Les chrétiens sont pas, ça c'est la réalité, ne sont pas visés directement. Voilà, il y a des victimes chrétiennes, ça c'est certain, mais elles ne sont pas visées directement en tant que chrétiens.
D'accord. Et alors justement sur un aspect peutêtre plus humanitaire, quelle est la situation pour un village qui serait au milieu d'autres villages, un village chrétien qui serait au milieu d'autres villages chiites, du Hezbollah, complètement rasé justement. Enfin, comment est-ce qu'on achemine la nourriture? Est-ce qu'il y a toujours une forme d'accès Internet? Enfin, comment est-ce qu'il y a toujours des... Vous parliez des élèves, comment les élèves font pour suivre encore leurs cours? Est-ce que finalement on essaye de retrouver une vie normale d'une certaine façon, ou alors est-ce qu'on se sent vraiment en état de guerre?
Non, c'est vraiment l'état de guerre. C'est vraiment l'état de guerre. Des villages sont isolés, hein, je pense à Armesh, à Ain Ebel et à Debel, qui sont ravitaillés épisodiquement, mais là ce sont des convois lourds sous protection de l'armée, de l'armée libanaise et de la FINUL. Donc vous comprendrez que c'est pas très aisé de les ravitailler. Le problème, ce sont les médicaments et ce sont les soins. Oui. La nourriture, ça arrive à se régler, voilà, ce sont les médicaments et les soins. Le gros problème, c'est que les gens ne peuvent plus travailler, puisque soit ils sont agriculteurs. Et bien, on évite de sortir parce que ça tire dans tous les sens. Soit ils ont des emplois dans des villes un peu plus éloignées, mais on ne peut pas circuler. Donc il y a un gros problème de revenus dans ces villages chrétiens qui sont restés. Il y a un problème effectivement d'éducation, puisque les cours ne peuvent pas se dérouler normalement, les écoles sont fermées. Les enseignants, les établissements font un travail remarquable parce qu'il y a des cours en ligne, et puis il y a le sentiment de ne plus, enfin voilà, c'est un état de guerre, on est isolé, on ne peut pas voir ses amis, voilà. C'est l'église reste un lieu important, puisqu'on se retrouve à l'église le dimanche, c'est là où on peut encore avoir une vie sociale, mais sinon, voilà, ils vivent en état de siège, c'est très difficile. J'ai écouté des témoignages de jeunes lycéens libanais de Cléa hier, c'était très, 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 très émouvant, très prenant, ils sont d'un courage absolument remarquable. Les chrétiens du Sud font l'admiration de tous les chrétiens du Liban, hein, parce qu'ils sont symboles de ce peuple chrétien du Liban qui veut rester sur sa terre, envers et contre tout, malgré les dangers. Et ils sont le gage de la résurrection qui va venir du Liban.
Justement, à ce sujet précis, il nous reste une minute. Quel est l'espoir aujourd'hui des Libanais? C'est-à-dire que, est-ce que dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir rester et tenir le coup? Ou alors, est-ce qu'ils se disent qu'un jour, vraiment, le Liban pourra se reconstruire? Et sous quelles conditions? En une minute, désolé.
Ce qu'on entend, c'est qu'on veut bien subir encore des sacrifices, mais que ce soit la dernière fois et qu'on en finisse. Que l'État libanais reprenne sa souveraineté, que l'armée libanaise retrouve sa force et sa souveraineté, qu'il n'y ait plus d'État dans l'État et que les conflits étrangers au Liban ne viennent plus sur notre sol. Voilà. Ils sont prêts à souffrir encore quelques temps, mais que ce soit pour la dernière fois et que le Liban retrouve la paix et la souveraineté.
Eh bien écoutez, on va finir Yann Bali sur ce beau message d'espoir, en espérant qu'effectivement un jour les Libanais se réveillent de ce long cauchemar dans lequel ils semblent plongés. Merci d'avoir été avec nous sur le terrain, et peut-être qu'on vous retrouvera à votre retour si cela est possible. Merci avec beaucoup plaisir. Et à bientôt sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Merci chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie ce matin. Et écoutez, il faut qu'on vous dise quelque chose, c'est qu'on apprécie beaucoup faire ces matinales, mais malheureusement on ne peut pas tous faire ça de façon bénévole, on ne peut pas tous faire ça sans moyens, ça coûte de l'argent et cet argent il vient de vous.
Aidez-nous à défendre vos idées et également à pérenniser cette belle aventure qui dure depuis bientôt 40 ans, cette belle aventure qu'est Radio Courtoisie. Je vous invite donc à nous faire des dons en ligne en vous rendant sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et puis de façon plus classique, d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, on n'est pas difficile. À côté de ça, quel est le programme du jour, Arnaud?
Alors, vos grands rendez-vous de ce jeudi 30 avril, tout à l'heure à midi, le Libre Journal du Cinéma, dirigé par Philippe-Henri Rambaud. Il y sera question de Jean-Paul Rapneau, cinéaste du Panache. À 14h, La Tête hors de l'eau, dirigé par Catherine Rouvier. Les monarchies font de la résistance, dynasties et monarchies du monde. La monarchie japonaise, 2600 ans d'histoire. Et enfin, dernier sujet de cette émission, la musique royale. À 17h, Sansum Corda de l'abbé Mathieu Raffray.
Oui,
Sansum,
c'est bien, oui.
2, épisode 27. À 17h30, un document d'archives de Radio Courtoisie, Restons Courtois, dirigé par Marc Hainaut, le 12 février 2026, consacré à l'islam contre la modernité. 19h30 en direct, le Libre Journal de Chrétienté, dirigé par Guillaume de Tannouarn, le 4e centenaire de la naissance de Madame de Sévigné. et Michel de Saint-Pierre, romancier catholique. Et puis enfin, ce soir, à 21h30, j'ai du mal, hein, en fin d'émission, le Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassay, consacré à la fuite de Varennes.
Voilà, et puis nous on ne vous dit pas à demain parce que demain c'est le 1er mai. 1er mai c'est un jour férié également à Radio Courtoisie, enfin à Ligne Droite en tout cas. Donc Radio Courtoisie, il y aura des émissions qui seront diffusées. Ne vous en faites pas, on s'arrête jamais.
Cela étant,
pour Ligne Droite, eh bien on vous dit rendez-vous à lundi avec Richard de 16 et à mardi avec moi-même. Bon week-end à vous, chers auditeurs.
À bientôt.